Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et ça y est, eh ben c'est dimanche, fin d'après-midi, 18h. Salut Pierre.
Salut Malolo, comment que ça roule?
Eh ben ça roule plutôt pas mal. Attention, gros programme aujourd'hui, tu vas nous faire peur avec des radars anti-freinage.
Des radars anti-freinage. Alors c'est le radar avant le radar. Oh, bon, eh, on va pas se mentir, hein. Là on est en voiture. Vous nous écoutez peut-être avec Lolo et vous êtes peut-être dans votre voiture. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un radar?
Hop,
on freine un petit coup et puis on accélère derrière. Eh bien voilà Tipa qu'on nous a trouvé le radar qui va venir surveiller si tu freines avant le radar. Alors donc avant le radar il y a un radar, après le radar il y a un autre radar, bref on vous explique tout dans quelques minutes. Vous allez voir un truc à coucher dehors avec un billet de voiture.
À la fin de notre émission, vous le savez, vous avez votre rendez-vous échange avec Pierre qui met dans ces cas-là bien sûr sa grosse casquette de 40 millions d'automobilistes. Vous avez envie de discuter avec lui, vous dire tout simplement ce qui vous énerve sur la route, la politique, ce que vous avez vécu, langue irlandais Pierre, oui vous avez le droit. Aussi, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300 ou vous nous envoyez un message à jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien ça roule dans l'objet, le sujet que vous voulez évoquer, vos coordonnées complètes avec numéro de téléphone. Mais tout de suite, et pour commencer cette émission, on va parler de cette étude de l'ADEME qui semblerait décrire que les véhicules électriques ne seraient plus, enfin, seraient plus émetteurs de fameuses particules fines PM10 que les véhicules thermiques. La sacro-sainte voiture vertueuse pour l'environnement ne le serait pas tant que cela. Vous en pensez quoi? 0826 300 300.
Sud Radio, ça roule.
La sacro-sainte voiture
vertueuse.
Ouais.
Vertueuse pour l'environnement.
Ouais, vertueuse.
Alors pour parler de ça, on a notre expert en mobilité, 40 millions d'automobilistes. Il s'agit de Fabrice Godefroy. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Alors dites-moi Fabrice, ce rapport, cette étude de l'ADEME, déjà qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui se passe?
Déjà, qu'est-ce que c'est que l'ADEME? C'est l'Agence de la maîtrise de l'énergie. Grosso modo, on ne peut pas les taxer d'être anti-voiture électrique, puisque c'est la caution verte hein, du gouvernement, on va dire.
L'ADEME, c'est même l'organisme officiel, c'est-à-dire c'est l'Agence de la transition écologique. Donc, ce n'est pas une ONG parmi d'autres qui fait un rapport, c'est véritablement ce qui influe directement sur les décisions du pouvoir public. Donc, c'est extrêmement intéressant.
Et là, ce que dit l'ADEME, donc cette agence de la maîtrise de l'énergie, elle dit, attention, le véhicule électrique n'est pas si vertueux que ça.
Non. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait ça.
C'est pas vraiment tout à fait ça.
Attention en même temps.
Le titre, c'est plus de la moitié des particules maintenant ne sont plus émises à l'échappement, mais sont liés au niveau de la liaison au sol. C'est-à-dire freinage, roue, pneus et remise en suspension. Donc ils sont en train d'expliquer que plusieurs choses. La première chose, effectivement, alors il y a une colonne où les médias ont ressorti que le véhicule électrique était émetteur aussi de particules. D'ailleurs, on peut lire deux lignes là-dessus. Ainsi, les études récentes ne montrent pas un écart significatif d'émissions totales de particules entre les véhicules électriques à forte autonomie, donc à grosse batterie, c'est ce que ça veut dire, et les véhicules thermiques neufs actuels.
Donc,
c'est cette ligne-là que les médias ont repris.
Donc en décodant, ça veut dire qu'entre un diesel neuf, parce que c'est le diesel qu'on a souvent attaqué, entre un diesel neuf et un véhicule électrique neuf, dans les deux cas, ça joue à très peu
à
les émissions
batterie,
de particules.
À grosse batterie.
À grosse batterie. Ouais. Ah, non. Alors moi, j'y vois autre chose là-dessus. J'y vois surtout qu'à la différence de ce qu'on nous a dit pendant des années, les filtres à particules...
sont efficaces.
Extrêmement efficaces. C'est surtout ça qu'il faut voir. Parce qu'on voit bien que l'ADEME... Alors là, déjà en mai 2018, ils avaient dit que les filtres à particules étaient efficaces à 99% jusqu'à 23 nanomètres. 23 nanomètres, c'est 100 fois en dessous des PM2.5 qui sont les plus petites particules analysées par Atmo, Air Paris, etc.
Ce sont les particules qu'on pointe dans les maladies cardiovasculaires, respiratoires.
Quand on nous dit que la pollution tue prématuré, etc. Beaucoup étaient liés justement aux particules. Donc cette étude-là montre bien que l'efficacité des filtres à particules a été extrêmement probante par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, et c'est là où moi je trouve que c'est affolant, c'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler que l'arrivée des filtres à particules en obligation sur les véhicules diesel, c'est arrivé en 2011, l'obligation, avec la norme Euro 5. Pour les essences, ça a été un peu plus tard, ça a été en 2017-2018, parce que maintenant, les essences émettent aussi des particules, parce qu'ils sont passés en injection directe, donc se retrouvent avec le même problème que le diesel à l'origine. Mais apparition en obligation des filtres à particules, 2011 pour les diesels. L'étude, elle sort en 2022. Ça veut dire qu'il y a quand même un délai abyssal, énorme, entre l'évolution technologique liée aux normes et la constatation par un organisme officiel qui peut rebattre les cartes, en fait, au niveau législatif. Mmh. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire que pendant des années et des années, pendant plus de 10 ans, on a attaqué les particules et finalement, on s'aperçoit que ça a été extrêmement efficace.
Alors, là, ce que l'ADEME dit, c'est, je veux dire, les particules, ils continuent de les attaquer. Ce sont celles qui sont des véhicules électriques au freinage. Elles sont pas bonnes pour la santé, ça on sait.
Oui. Voilà. Mais maintenant, ils disent que plus de la moitié... Et en plus, c'est une étude qui a pris le parc roulant en 2019. Donc, ils disent d'ailleurs que ça va évoluer encore plus. Ouais. Et là, on est en 2022, donc ça va évoluer encore plus. Mais ce qui est intéressant aussi, et il faut être honnête, ils disent que par contre, sur les oxydes d'azote, là, évidemment, il y a encore un problème au niveau de l'échappement. Ouais. Et ça, c'est pas les véhicules électriques avec l'abrasion.
On va laisser la parole aussi aux auditeurs.
Si
parce
je peux
que ça...
juste finir cette phrase-là, c'est que comme il y a un délai d'à peu près 10 ans au niveau de la constatation technologique, que les systèmes SR et piège à inox pour les oxydes d'azote sont arrivés en 2015, on peut estimer que l'étude arrivera en 2025 ou 2026, on vous dira « Ah bah tiens, finalement, les oxydes d'azote a été bien traité, et c'est au moment où on arrêtera le moteur thermique. »
Parce que mon Fabrice, il est parti tout droit sur les oxydes d'azote, et il y en a qui doivent écouter en se disant « Attends,
qu'est-ce que c'est que
les oxydes d'azote ?»
Après, on file au standard, alors, les enfants, parce qu'il y a du monde.
C'est le deuxième polluant qui a été très attaqué sur le diesel. Il y avait à la fois les particules et les oxydes d'azote.
L'oxyde d'azote étant principalement gazeux, en fait. Et c'est combiné avec les émissions, notamment de l'agriculture. Quand on combine les deux ensemble, ça fait une particule. Voilà.
Allez, on file au standard, au 0826-300-300. La question, vous, est-ce que vous croyez que les véhicules électriques polluent moins ou plus? Ben voilà, on parle de ça avec vous, Daniel. Salut.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Comment ça va?
Très bien. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Moi, j'ai une double casquette. J'ai la casquette de recyclage automobile, de garage spécialisé dans le recyclage automobile.
Ouais.
Et je suis chirurgien.
Ah oh.
Par passion, oui.
Chirurgien par passion, mais vous ne faites pas ça au black.
Ah non, effectivement, j'ai cette double casquette et donc c'est très intéressant de pouvoir dialoguer avec vous sur ce sujet. Et, parce que moi, je vois l'envers du décor, malheureusement, avec les effets du système polluant, sachant que quand même, il y a un dogme qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, parce que là, il y a une excitation, et c'est vrai qu'il y a un problème planétaire, mais toute activité humaine est polluante.
Oui. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas améliorer, mais il ne faut pas non plus...
Il ne faut pas non plus, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus constamment se dire que dès qu'on fait quelque chose, on est polluant. Donc, le véhicule électrique, moi, mon point de vue, donc moi, comme je vous le disais, je m'occupe d'une entreprise qui est spécialisée dans le recyclage, et donc on a des véhicules en fin de vie pour lesquels il y a une véritable procédure de recyclage en séparant les liquides de freinage, le liquide de refroidissement.
Comment s'appelle la structure qui fait ça? Comment ça s'appelle?
Aujourd'hui, le terme EPAVIS n'existe plus. C'est-à-dire que le vrai terme, c'est recyclage automobile. D'ailleurs, il y a une revue spécialisée.
Non, mais votre société, Daniel, vous...
Elle s'appelle Autocar.
Ah, ok,
On est spécialisé dans le recyclage des véhicules Mercedes uniquement.
D'accord.
Exclusivement. C'est-à-dire
C'est des centres VHU, en fait, c'est ça?
Exactement.
Voilà, VHU, pardon.
Véhicules hors d'usage.
Voilà, d'accord. Okay.
Véhicules hors d'usage avec des agréments préfecture.
Okay.
Et on ne peut pas faire n'importe quoi.
Mais
c'est-à-dire
alors,
qu'il y a toute une traçabilité.
Excusez-moi, Daniel, du coup, de recentrer un petit peu le sujet sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, même si tout est passionnant et je m'excuse de peut-être être un peu.
Non, allez-y. Oui.
Là, par rapport à ce rapport de l'ADEME, cette étude qui pointe du doigt le fait que la voiture électrique est tout aussi polluante avec certaines particules fines par les freinages, par le contact roue, etc. Donc, c'est-à-dire que jour après jour, on apprend que le véhicule électrique n'est pas aussi vertueux en fait que ce qu'on a bien voulu nous faire croire.
Le problème, c'est que
amélioré ailleurs.
On a tous vécu comme un interlocuteur très spécialisé qui faisait des remarques sur le diesel.
Fabrice Godefroy.
Effectivement, on est arrivé à des points de non-nocivité maximale sur le diesel. C'est vrai que les derniers chiffres montraient que le diesel, finalement, avec les filtres à particules, c'était absolument... Et puis maintenant, on va nous dire... Moi, je suis convaincu que dans les années qui viennent, quand l'électrique va reprendre son ampleur, qui était le cas actuellement, on va nous dire dans 10 ans, finalement, on a un problème, à la fois dans la pollution quotidienne, dans le recyclage de ces véhicules, et on se retrouvera à nouveau dans un cul-de-sac qu'on n'arrivera pas à résoudre. L'erreur, à mon avis, c'est de vouloir passer de l'un à l'autre sans avoir, puisque c'est difficile de faire une étude prospective, on est obligé de le vivre en fonction des dégâts subis sur le moment, et on se dit après, ah ben finalement, donc il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui, il faut la voiture à hydrogène et ça sera moins polluant que l'électrique. Et puis quand on aura fini avec l'hydrogène, on aura toujours course.
En fait, ce qui est intéressant, Daniel, c'est d'observer que finalement, toutes les technologies auto, quelles qu'elles soient, comme toutes les autres technologies, je prends souvent comme exemple les radiateurs. Parce que quand on se souvient des radiateurs d'il y a 50 ans et qu'on voit ce qui sort
de la
aujourd'hui.
Le
radiateur de la maison. Quand tu vois l'évolution sur les radiateurs entre le grille-pain d'il y a 50 ans et puis ce qu'on sort maintenant, ça n'a plus rien à voir. Il y a eu la même évolution sur les motorisations. C'est-à-dire qu'on est sur une évolution perpétuelle. Et quand l'être humain découvre une problématique, notamment sur le carburant diesel, il cherche une solution. Donc, il faut, et de la même manière, les motorisations électriques vont progresser, c'est une évidence. L'erreur, c'est de jeter l'opprobre. L'erreur, c'est de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est de dire, grosso modo, le diesel, c'est fini, c'est pourri, c'est terminé.
Le thermique est arrêté en 2035, normalement, Fabrice.
Et puis, on n'y est pas, Fabrice.
On en reparlera.
On sait très bien que le politique qui prend la décision aujourd'hui, c'est pas celui qui la fera appliquer dans 20 ans. Donc, c'est facile. Moi aussi, je peux dire des trucs pour dans 50 ans. Je m'en fous, je serai plus là.
Mais c'est une mauvaise dynamique parce que derrière, quand on dit ça, forcément, les équipementiers, tu viens de le dire, essayent de faire des technologies qui apportent véritablement des progrès. Sauf que quand on leur met une perspective d'arrêt dans quelques temps, ils se disent on va mettre frein à main, on va pas mettre des investissements là-dessus. Donc on part sur autre chose. Donc en fait, c'est contre-productif. C'est même une erreur de faire ça parce que derrière, les gens, ils vont faire moins d'investissements, les équipementiers, et il y aura peut-être moins de résultats qu'il y en a eu notamment sur les filtres à particules.
On en parle
comme
dans quelques instants, effectivement, sujet passionnant. Merci à Daniel d'être intervenu. Bienvenue au 0826 300 300. On va reparler de cette étude de l'ADEME. Et puis j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se cache derrière.
Il y a le coup d'après, ce qui est intéressant, c'est le coup d'après.
Dans quelques minutes, si vous le voulez bien, Maître Fabrice Gautroy. avec vous, évidemment, au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre dans cette émission spéciale suite à l'étude de l'ADEME. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et dans quelques minutes, nous allons vous proposer le deuxième sujet, des radars anti-freinage qui vont bientôt être déployés sur nos routes. Vous êtes tout de suite attendus au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez, pour ou contre ces fameux radars anti-freinage, ceux qui seront placés avant le radar anti-vitesse.
C'est ça.
0826 300 300. Le même numéro que vous pouvez composer dès maintenant pour nous rejoindre sur le sujet que nous évoquons actuellement et cette étude de l'ADEME qui me laisserait entendre que les véhicules électriques seraient plus émetteurs des fameuses particules fines PM10 que les véhicules thermiques d'aujourd'hui. Le véhicule électrique est donc peut-être pas si écolo que ça, et en tout cas peut-être pas une histoire d'écologie mais de santé. Toujours avec Fabrice Gautroy, Monsieur Mobilité, et puis vous, on vous attend au standard. Dites donc, Fabrice, là vous nous avez lâché en disant que selon vous il y avait un coup d'après à cette étude, là j'ai pas trop compris.
Oui, parce qu'en fait cette étude elle montre que finalement les évolutions technologiques ont été extrêmement efficaces, notamment sur les particules liées à l'échappement avec les filtres à particules. On commence à nous parler des particules de freinage, des pneus, de la remise en suspension. Donc, qu'est-ce qu'on voit derrière ? On voit pointer la prochaine norme Euro 7. Et je peux déjà vous annoncer, j'en suis pratiquement persuadé, mais on en reparlera dans quelques années, mais qu'on va commencer à avoir sur les prochaines normes une restriction au niveau des particules de freinage. Parce que ce rapport, il n'est pas anodin. On est en train de vous dire, on a réglé le problème des particules à l'échappement. Il y a des nouvelles particules, forcément, qui apparaissent parce que les autres ont tellement baissé. Donc derrière, il y aura une norme pour les constructeurs et les équipementiers sur le freinage.
Alors, on en parle un petit peu parce que une question intéressante. Il y a des solutions qui existe déjà. J'en cite une parce que c'est celle qui me vient à l'esprit, celle de Talano notamment.
Bravo, je l'avais aussi au frigo.
Voilà. Donc qu'est-ce que c'est ça ?
Alors je schématise, c'est un petit aspirateur de poussière de freinage.
D'accord.
Quand tu freines, c'est un filtre à particules, ça va aspirer les poussières de freinage, donc les particules fines, et ça va les traiter. Donc c'est d'ailleurs la preuve que le filtre à particules est efficace, parce que finalement l'aspirateur c'est ni plus ni moins qu'un filtre à particules à l'intérieur. Donc combien ça coûte? Est-ce qu'il y a une vraie perspective? C'est français déjà, c'est corse même, hein, voilà. Comment ça fonctionne et est-ce qu'on peut avoir ça qui apparaît dans nos voitures? Parce que c'est une super solution, c'est pas mal finalement.
Alors moi j'avais rencontré en fait un équipementier, un commercial d'un équipementier qui était partenaire de ce fabricant-là à l'époque. Il était venu nous voir, mais il y a plus de 10 ans. Et à l'époque qui cherchaient des référencements constructeurs. Et ce n'était pas si évident que ça, parce que, comme pour l'instant, ce n'était pas un sujet de norme, l'imposer, techniquement, ce n'était pas forcément évident. Là, avec ce qui va pointer, avec la norme Euro 7, et j'en suis persuadé que ça va arriver, là, il va y avoir des mouvements à travers là.
Donc, ça veut dire que c'est un peu de la manipulation. 0826-300-300, on a Laurent qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Laurent.
Salut Lolo.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Oh, quelle jolie voix.
Tu me dis jamais ça, moi.
Bah, même ça, je t'entends tous les jours. Là, je c'est la découvre, la voix de Laurent.
Ah non, Laurent, tu la découvres pas, on se connaît.
Ah bon?
J'adore. Oui. Eh ben oui, c'est ton ex. On l'a fait venir.
Il s'appelle pas Laurent, mon ex.
Je pense qu'on a fait des vendanges tardives chez un ami à Saint-Cyr-sur-Gironde.
Mais bien sûr. Ah oui, ça y est.
Et j'étais pas là?
Non. Parce que,
effectivement,
un très très beau domaine qui s'appelle le domaine de Cassard, voilà. Domaine Cassard à Saint-Cyr-sur-Gironde, qui fait des côtes de Blaye absolument magnifiques, dont un crément qui a encore été primé, un vin blanc Sauvignon premium magnifique a été primé.
Là, c'est parti, on est parti dans le vin.
Ah non, mais
c'est parti.
Alors, Laurent,
on vous écoute sur donc, le sujet.
Et on peut le mettre dans le réservoir,
des véhicules électriques.
Par rapport mais le sujet, il est très compliqué. Tu connais mon parcours. Moi, je suis plus dans le monde de l'automobile et des courses. Donc, effectivement, je suis plus sur le thermique qu'autre chose. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux. On va pas arrêter de découvrir des contre-vérités sur l'électrique. D'abord, je trouve ça excessivement dangereux parce qu'on n'entend pas les voitures, parce que j'ai vu dernièrement des motos. Tu sais que je roule Harley, donc c'est pas franchement le même style de moto.
Là, on les entend.
Et mon Dieu, jamais je roulerai avec une moto électrique. Mais voilà, je trouve qu'il y a d'autres solutions à trouver aujourd'hui. En plus, il y a vraiment une histoire d'autonomie, à moins qu'on ait un gros portefeuille, comme vous le disiez tout à l'heure, pour avoir des voitures électriques à forte batterie, donc avec des autonomies. Quand on vit en province, c'est quand même super compliqué d'avoir une voiture qui va faire 200-300 km.
C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les usages. C'est que le véhicule, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il ne faut pas rediffuser le truc dans 10 ans, peut-être ça aura changé. Mais aujourd'hui, le véhicule électrique est une solution urbaine intéressante.
Oui,
c'est une solution très sympa pour les petits trajets en deuxième ou troisième véhicule du foyer. Mais pour répondre aux besoins de la famille, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas à la hauteur.
Vous voyez qu'aujourd'hui, d'ici 3 ans, la plupart du parc automobile en Gironde, puisque je suis en Gironde, va être interdit de circulation sur Bordeaux.
On est sur
70% du parc automobile qui a aujourd'hui les moyens de se payer ou une voiture neuve à courte émission ou une voiture électrique. Alors, bien évidemment, il y a des aides qui vont certainement encore arriver. Maintenant, vous voyez, j'ai eu l'expérience il y a une petite semaine, j'étais sur Monaco et j'ai un ami qui est venu me chercher qui s'est offert un superbe Porsche Cayenne. Hybride. Et en fin de compte, je me perçois que les gens qui s'achètent ce genre de véhicule, c'est pas du tout parce qu'il est électrique, parce qu'il m'a dit qu'il s'en servait pas du tout. C'est tout simplement pour pas payer les taxes.
Passer à travers les zones à faible émission.
Si en plus on le recharge pas, alors le véhicule est encore plus lourd, et donc finalement on pollue encore plus consomme encore plus.
C'est pour pas payer les charges. Aujourd'hui, regardez le nombre de voitures qui sont sur les parcs. Vu les voitures, elles prennent jusqu'à 20-30 000 euros de plus que son prix. Donc il y a un marché de l'occasion aujourd'hui qui est monstrueux sur des pick-up. Et par contre, il y a des solutions. Moi, j'ai découvert une solution il n'y a pas très longtemps. C'est une entreprise qui s'appelle Ecopra et qui m'a expliqué, qui m'a installé ça sur mon véhicule, puisque le moteur consomme plus d'eau que d'air. Et en fin de compte, ce qu'on appelle un buveur d'air. Donc il n'y a pas du tout de modification au niveau du moteur. Ils viennent placer un filtre qui va aller dans le filtre à air et qui va renvoyer de l'eau. Et en fin de compte, on s'est aperçu que... Alors, je roule avec je vais être très honnête, un vieux 4x4 qui a tendance, on ne va pas mettre son nez sur le pot d'échappement.
Je
peux vous assurer que j'ai fait l'expérience. D'abord, j'ai beaucoup moins de consommation. Donc, c'est juste une petite pipette d'eau qu'on remplit. j'ai beaucoup moins de consommation et j'ai réussi à mettre mon nez sans aucun problème.
Alors, oui,
sur
le réservoir. Bah, c'est, donc, alors là, on rentre dans la technique.
Pour, pour avoir une consommation moins riche,
c'est
certainement.
Ça, c'est ça, l'apport
donc,
en eau.
Moins de consommation.
On s'est tous rendu compte, notamment les jours où il y avait énormément d'humidité. On avait une optimisation de notre puissance véhicule. Tout le monde s'en rend compte. On a plus de couple quand il y a cette légère humidité. Donc en fait, là, on rajoute juste de l'humidité.
Mais comment ? Enfin, là, moi, vous m'avez perdu technologiquement. Même notre ami Jérôme Gautrois.
Je ne connaissais pas le
Fabrice,
ce système. Je connais d'autres systèmes, mais celui-ci, je ne connais pas.
Je vous invite franchement.
C'est l'apport en eau qui permet donc d'avoir une optimisation de la puissance du véhicule, plus de coupe, donc fatalement un peu moins de consommation si on ne tape pas dedans comme un taré. Mmh. Si on tape dedans, c'est pareil. Hein.
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais aujourd'hui, ils arrivent à équiper, que ce soit des motos, des jet skis, tout ce qui est thermique, des tracteurs, des camions, où ils baissent vraiment de 20%
économiseur de carburant, voilà, c'est ça.
Alors,
c'est le kit Pantôme, c'est ça ? Économiseur de carburant, je fais une recherche sur. J'avais jamais entendu parler ça.
Pour revenir à notre sujet un petit peu.
Ils sont Girondins aussi.
Ouais, merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va parler d'une autre chose qui fâche, ces radars anti-freinage qui vont bientôt être déployés sur nos routes. On vous attend pour réagir à ce sujet. 0826 300 300.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous voici arrivés à ce moment de l'émission où moi, quand Pierre m'a dit « Attention, ma Laurence, on va parler des radars anti-freinage », j'en ai perdu mon latin, je pense que j'ai laissé la bouche ouverte, je lui ai dit « Quoi ?»
Allez, on fait un petit point. Les radars mobiles, les radars fixes, les radars mobiles, les radars anti-bruit, les radars de voies de chemin de fer,
les radars de feu rouge,
les radars travaux, les radars aussi, ce qui ressemble à R2-D2 là, sur le bord de l'autoroute, monté sur roulette, là, qui ressemble à rien et qui flash du jour au lendemain. Bref, quand il s'agit d'inventer un radar, la France est toujours là. Et bien cette fois-ci, Malolo, on est battu. Parce que les radars anti-freinage, ils sont arrivés par l'Espagne. Nul doute que ça
Ils ne sont pas encore en France.
Ça va débouler. On va les voir arriver plus vite que la musique. En tout cas, je vous explique le principe de ce radar anti-freinage. Alors, si vous n'y étiez pas là au début de l'émission, et c'est une grande faute, je suis sûr que vous vous en repentez, on vous explique ce que c'est que ce radar. Tous, je pense Fabrice, pareil, Fabrice Gautrois, pareil que moi, quand on voit un radar, on a ce réflexe, on lâche un peu la pédale d'accélérateur à minima.
On surveille le compteur en tout cas.
Voire même si on est un peu haut.
On freine.
On va pas aller se faire flasher, on est quand même pas complètement,
idiot.
Je viens de le dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On freine un peu et puis arriver derrière, surtout sur des routes limitées à 80 km/h parfois où on se demande pourquoi, cher Édouard Philippe, je t'ai connu plus intelligent, au final on réaccélère. Eh bien ça y est, on a inventé un système, alors accroche-toi Lolo. Avant le radar, on met un radar qui va calculer la vitesse à laquelle tu es. Puis quand tu passes au radar, on calcule la vitesse à laquelle tu étais. Et après le radar, on met un autre radar pour savoir à quelle vitesse tu as accéléré. Et si les radars, surveillés par le radar, lui-même surveillé par le premier radar, fait état du fait que tu as freiné puis accéléré, eh ben tu reçois la douloureuse.
Un truc c'est comme ubuesque. Ça. C'est ubuesque.
Oui, d'autant plus qu'on peut aller plus loin. À quand le radar anti-freinage, pour déceler le fait que tu as freiné avant le radar freinage qui te permettra de voir si potentiellement tu avais détecté qu'il y avait un radar anti-freinage et donc qui te permettrait de gauler le mec qui aurait appuyé sur la pédale de frein avant.
Alors là, je pense que Pierre Chasseret est devenu un mec qui peut faire du stand-up. Non, c'est très drôle.
Je ne l'ai pas fait exprès.
C'est très drôle. C'est ridiculement drôle. Pas vous, le radar anti-freinage.
Le problème, c'est que des conneries comme ça, on en trouve par milliers. Et si l'intention, je peux la comprendre, l'idée, mais on n'a personne qui fait ça. Je connais personne qui roule à 150, qui pile à 79 et qui remonte à 150. Évidemment, on le fait à la marge, c'est-à-dire qu'on va freiner un petit peu, parce qu'on n'a pas envie de prendre 68 euros.
Mais même au-delà de ça, Pierre, c'est des radars anti-freinage. Non, mais ça devient n'importe quoi. Enfin, il y a un moment. Tiens, on va ouvrir le standard parce qu'il y a pas mal de monde là, au 0826 300 300. Vous imaginez bien que ça fait réagir.
Accélère pas trop, Lolo.
On est du côté de l'Espagne. Pour l'instant, c'est en Espagne. On est avec Jean-Pierre de Montpellier. Bonjour. Ah non, c'est Bruno. Ah,
C'est Bruno.
On a Bruno de Rennes.
C'est son frère.
Salut, on a d'abord Bruno. Salut Bruno. Il y a du monde au standard, c'est pour ça. Bonjour Bruno.
Bonjour messieurs, dames.
Vous avez donc entendu l'extraordinaire explication de Pierre.
Déjà, est-ce que vous avez tout compris?
Non mais c'est complètement affolant. Là. Vous avez embrouillé mon radar interne. Là.
et moi, vous n'aviez pas la vidéo, mais je faisais les gestes pour que ce que je dise soit réaliste. Parce que le problème, c'est qu'on y perd son latin dans des conneries comme
ça. Parce que la vidéo, elle est sur la page YouTube de d'abord en replay, mais surtout sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, un petit avis, Bruno, sur ces radars.
Ah bah bien évidemment complètement contre. C'est
j'ai eu peur.
On arrive dans du vice là complètement.
Ouais.
On arrive dans du vice. Mmh. À ce moment-là, pourquoi ne pas enlever les panneaux, camoufler les radars avec de la verdure.
Ça arrive ça.
Et
les
puis
panneaux.
Comme ça, ça coûtera moins cher.
Ben les panneaux, c'est bien que vous en parliez, parce qu'on va en parler aussi un petit bout. Vous avez vu aussi, certainement, cette information qu'a sorti 40 millions d'automobilistes, c'est qu'avant, on avait les panneaux qui annonçaient le radar. Alors, ça participait d'une logique qui était, les radars sont situés dans des endroits dangereux, il faut que les automobilistes ralentissent, donc on pose un panneau. Honnêtement, c'est cohérent. Alors maintenant, ce qui a été fait, c'est qu'il n'y a plus le panneau qui t'annonce le radar. On a le panneau qui t'annonce sous combien de kilomètres
tu vas avoir
une probabilité de radar. Avec notamment, quelquefois, j'en ai trouvé un comme ça, un panneau qui te dit « Attention, tu vas avoir un radar dans les 125 kilomètres qui viennent ». Donc je me mets à la place du type qui va faire ses courses, qui va faire 15 bornes. On lui dit que sur sa route, dans les 125 km qui arrivent, il va avoir un radar, même s'il va au bout, il ne s'en souvient plus. Donc voilà Bruno, effectivement on est en train, encore une fois, de faire la chasse au tout petit excès de vitesse.
Non, mais c'est dingue.
Oui,
c'est dingue.
Et puis bon, c'est un autre débat, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tous ceux qui ne mettent pas leur clignotant dans les changements de fil au niveau des ronds-points, on ne fait rien.
Ben non, parce que ça, on peut pas verbaliser, on peut pas mettre un radar, donc ça intéresse pas la sécurité routière.
Ben voilà, alors que pourtant, c'est quand même 3 points, je crois, il me semble, un défaut de clignotant.
Oui, et puis n'oubliez pas, 16% des accidents mortels, c'est des refus de priorité. Voilà, et ça, on s'en fout, on n'en parle pas, c'est pas grave.
Ces fameux radars anti-freinage, là, c'est en 2022 qu'ils vont être positionnés en Espagne.
C'est-à-dire là.
Là, maintenant, cette année, là.
Attends, Lolo, bonne année.
Non, mais oui, c'est ça. vous les voyez arriver quand
Je pense que d'ici l'année prochaine, ils vont arriver, ils vont faire leur apparition en France. Nous, on n'est pas.
Mais en fait, c'est des radars anti-pollution, si on saura. Au sujet précédent. On nous empêche de freiner, donc on ne développe pas des particules de freinage.
Mais il y aura aussi les radars anti-pollution qui vont arriver pour les zones de faible émission. Ça, il va y les avoir par rapport aux vignettes critères. Ouais, donc, ce n'est pas l'ubérisation de la vie, c'est la radiarisation de la vie, en fait.
Ouais, moi, j'appelle ça la radarothérapie. Mais autant ça fonctionne dans des soins, autant là, ça ne fonctionne pas terrible. Bruno, tiens, juste à titre purement personnel.
On a bien Jean-Pierre après, il y a le standard.
Ouais, Bruno de Rennes, j'ai bien retenu. Ouais. Dites-moi, à Rennes, c'est dur hein, vis-à-vis de la voiture par chez vous. Comment ça fonctionne niveau radar? Parce que comment vous l'avez accepté dans votre département? C'est repassé à 90 ou il y a encore des routes à 80 ou comment c'est passé?
On s'y perd. Il y a encore des routes à 80. Il y a certainement des routes qui sont passées à 90, mais je ne sais pas lesquelles.
Ouais, alors après, la Bretagne, en plus, elle a quelque chose de particulier, c'est que tu as effectivement les départementales, les autoroutes non payantes, grâce à Anne de Bretagne, à l'époque. Les quatre voies, on appelle plus ça des autoroutes, d'ailleurs.
Nous, on a Anne de Paris, aussi.
mais c'est à 110. Et du coup, ça passe de 90 à 110 à 70. Là, quand on prend l'autoroute de Rennes, pour revenir sur Le Mans, par exemple, il y a toute une partie qui est passée à 70 sur l'autoroute. Je me suis fait flasher, moi. Parce que 70 sur l'autoroute, non, c'est même pas la rocade.
C'est pas la rocade.
Ah non, vous avez quitté la rocade, vous vous engagez sur l'autoroute.
C'est bien ça.
Et là, il y a un virage, et hop, c'est passé à 70. Et ben moi, j'ai pris le flash. J'étais à 90 à peine.
Ce qui est insupportable dans cette histoire-là, c'est aussi les villes qui sont passées de 50 à 30. Donc il y a Paris, Grenoble, Lyon. Elles sont passées de 50 à 30.
Sur le sujet, les enfants.
C'est insupportable. Parce qu'en fait, avant, à 48 km/h, on était un très bon conducteur. Maintenant, si on roule à 48 km/h, avec quelques mois d'espace, maintenant on est devenu un chauffard.
Ouais, alors le seul avantage, c'est dans ce qui concerne notre radar anti-freinage, dans les villes où c'est limité à 30, c'est-à-dire où vous devez déjà rouler en dessous, là, franchement, on est peinard. Hein. On risque plus rien, parce que si on freine en dessous, on ne roule plus. Quoi, hein,
donc, ou alors on marche arrière.
Oui, on marche arrière.
On va remercier Bruno. Passez une très belle journée du côté de Rennes, Bruno. Merci de nous avoir appelés.
Merci à vous.
Et Rennes, je pense qu'on peut écouter Sud Radio soit sur le DAB, soit sur Internet, soit sur la l'application Sud Radio. N'hésitez pas. On a Jean-Pierre qui nous appelle, lui, de Montpellier. Je savais bien, il attendait patiemment Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Oh, mais il est très patient. Bonjour Manolo.
C'est gentil.
Bonjour Pierre.
Oh, bah, c'est salut, gentil. Jean-Pierre. C'est l'émission des copains aujourd'hui.
Oui, oui, bah, c'est, non, mais... c'est l'ami de Montpellier, Jean-Pierre.
Ouais,
on vous a déjà
ça.
Eu.
Ouais, c'est notre auditeur fidèle de Montpellier.
Pierre, il faudrait venir un jour ici parce qu'il y en a des super ralentisseurs que notre mère a fait.
Ah oui.
Et ça évite beaucoup de morts de gamins.
Ah,
c'est parfait.
Ah mais ça, faut m'envoyer tout ça. Faut pas hésiter. Faut me trouver sur Facebook.
Ah non, mais moi je suis pour ça.
Faut m'envoyer.
Les mecs qui roulent comme des canuts. Mais quand vous venez à 7, c'est pas loin à Bayargues. Hein.
Oui. Ah, c'est à Bayargues.
Ouais.
Ah bah je vais regarder ça alors. Oui bah, alors comme ça on trahit ma vie hein.
Mais non mais tu le dis à tout le monde que je suis un peu l'originaire de
régional de l'étape quand on parle de 7 et de l'Hérault parce que bah c'est ma région de cœur et que j'y passe dès que j'ai un
temps. Il y en a un qui va aller passer sa retraite là-bas, moi j'en suis sûr.
Oh là, bien avant.
Ah bon alors Jean-Pierre
interdit de séjour hein.
Non, ouais. Mais surtout que mes parents moi étaient héraultais hein, donc je connais très très bien l'Hérault.
Bon alors
j'étais à Sauvian, laisse-moi parler. Ma vie,
oui.
S'il te plaît.
Je connais bien aussi ça.
Ils étaient à Sauvian pendant plus de 25 ans, vous voyez.
Ah d'accord.
À côté de Valras et de Sérignan. Allez, go.
Il y a Daniel Guichard qui habite là-bas maintenant.
Oui, aussi. Jean-Pierre, aussi. On parle de nos radars anti-freinage.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en pense, Daniel Guichard?
Oui, oui. Non, mais moi, je suis tout ce qui est pour le racket, parce que c'est du racket, faut pas rigoler. Hein.
C'est clair.
Par contre, je serais très, très... non flexible pour tous ces excès de vitesse, tous ces mecs qui fument, qui boivent. Alors, je fume pas, je picole, mais quand je suis à la maison. Hein.
Ah, mais oui. Fumer, vous dire des substances interdites.
Des substances interdites, voilà, des petites herbes qui ne sont pas de l'estragon ni du thym.
Oui.
Ça serait bien d'ailleurs qu'ils fument du thym, ça fait une bonne haleine, meilleure en tout cas, pardon.
J'ai essayé.
Non.
Ah, pour la bonne haleine, il faut mâcher un peu d'ail, c'est bon. Hein. Des frais surtout.
Oui, alors ce radar anti-freinage, vous le craignez, comment ça se passe?
Évidemment. Je vais vous dire, pas plus tard que samedi dernier, moi je suis passé à Lunelville, il y a deux feux, et je me le suis fait rouge complet.
Hein? Mais comment vous avez fait?
Ben, il n'y avait personne qui était à droite qui sortait de la voiture, du feu qui était vert pour passer, et puis il n'y avait personne devant moi.
Je vous déconseille.
Merde. Non,
mais,
ben voilà.
Mais pourquoi vous avez grillé le feu rouge? Je ne comprends pas.
Il n'y avait personne devant moi.
Et alors?
Non, mais je m'en suis aperçu quand je suis passé.
Ah ouais, d'accord. Non, il ne l'a pas fait exprès. D'accord,
oh,
ok.
Je ne comprenais plus le Jean-Pierre d'avant qui râlait sur ceux qui conduisaient mal ou ceux qui buvaient ou machin et qui nous dit j'ai grillé un feu rouge et moi, je ne comprenais pas.
Alors, ça, par contre, c'est que ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas le faire exprès. Et si je n'avais pas eu ma copilote Aurélie à côté de moi, je ne le saurais pas d'ailleurs. Mais je n'avais pas vu. Voilà, ça peut arriver de ne pas voir.
Ce qui est compliqué aussi, c'est quand le feu est vert. On passe, il y a des embouteillages devant soi, donc on se retrouve devant en fait entre le feu et puis après ça passe au rouge et vous pouvez être verbalisé en disant vous avez grillé le feu alors que quand vous êtes passé c'était vert. Donc c'est toujours extrêmement ambigu et je sais que moi j'ai un collègue qui a été attrapé à cause de ça. Et là je sais plus combien de points c'est, mais c'est un paquet de points.
Ouais, c'est 4 points. Ouais.
Ouais, 4 points.
Mais donc du coup ce que nous dit Jean-Pierre, voilà, c'est une fois de plus.
Jean-Pierre, juste dans votre vie.
Non pas de l'arnaque, mais de raquette.
Un petit tour de table, tiens. Et Jean-Pierre, vous allez l'inaugurer. Vous avez déjà été pris au radar? Radar vitesse, hein, je parle.
Radar vitesse, oui.
Oui, je crois que tu
l'as.
Oui, bien sûr.
Mais il y a très longtemps, je vais vous dire quelque chose. Alors,
je croise les doigts, j'ai toujours fait extrêmement gaffe à ça.
T'as jamais?
Non, même
de 3-4 km/h.
Non, wow. Je fais extrêmement gaffe.
Moi, je suis toujours en dessous les 10 km/h.
Mais ça pourrait m'arriver. Ça pourrait m'arriver. Et puis...
T'es un chauffeur?
Non, c'est pas ça, c'est que je roule beaucoup moins qu'avant aussi. C'est-à-dire qu'à une époque, quand j'étais commercial dans notre métier de l'appréhension, que je démarrais comme commercial, il y avait moins de restrictions par rapport à ça. Et évidemment, les gens qui sont le plus exposés, c'est ceux qui roulent beaucoup, forcément.
Depuis 2003 et l'arrivée des radars...
J'ai pas perdu pour l'instant de points, mais
pas
je touche
un
du bois.
Seul,
non, je te garantis.
Ah, bravo. Hein.
Mais
problème de ce
ça,
radar anti-freinage là, qui est en Espagne en ce moment, c'est qu'il va nous faire perdre des points aussi. Ou pas parce que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles en France.
Alors, sur l'Espagne, donc le dispositif va être inauguré. On va voir si ça arrive en France. Il est bien évident que ce type de radar, s'il devait arriver, serait associé à une contravention. À partir du moment où c'est du code de la route, il y aurait forcément une perte de points afférente, puisque l'idée, c'est de détecter si tu étais en excès de vitesse avant le radar. Donc, ça sera l'amende de l'excès de vitesse qui s'y rapporte, fatalement.
D'accord. Mais je trouve ça quand même aberrant, quoi.
Bah, surtout qu'il peut y avoir une interprétation, parce que tu peux avoir à freiner aussi sur la période, parce que tu avais
peut-être quelqu'un devant toi, ou il y a une embûche, un
tu avais une voiture qui est en train de freiner, alors tu freines parce que tu. Enfin,
non, mais comment ils peuvent calculer aberrant, ça en fait.
Moi, ce qui me gêne dans cette philosophie du tout radar, encore une fois, c'est que je voudrais rappeler quand même ce que dit la Cour des comptes. La Cour des comptes vient dans un rapport dégratigner, c'est le moins qu'on puisse dire, la sécurité routière et la politique qui est faite envers le gouvernement, envers les gouvernements, sur la radarothérapie. C'est-à-dire qu'on a tout misé sur la robotisation, on a tout misé sur le radar, sur la vitesse, et du coup, on en délaisse tous les autres sujets d'accident. C'est pas moi qui le dis, là, cette fois-ci, c'est la Cour des comptes. C'est pas de ma faute si la Cour des comptes dit comme nous. Au final, on se retrouve avec un système qui devient inefficace, et je vais rappeler le classement de la France. On était en 2008... le 8e pays européen de la sécurité routière. Il y en avait 31 à l'époque qui étaient comptabilisés, puisque l'Angleterre est sortie depuis. Aujourd'hui, si on réintègre l'Angleterre, pour être à peu près au même niveau, on est 16e. C'est-à-dire qu'on glisse. On va même continuer à glisser, puisque les chiffres de l'accidentalité sont tombés récemment. Ils sont très mauvais et beaucoup plus mauvais que nos voisins européens. Donc, fatalement, c'est la preuve de la fin des radars. Sans doute qu'on est arrivé au bout de l'efficacité, qu'il faut penser autrement. Et l'Espagne est en train de faire fausse route. J'attends juste la confirmation de la sécurité routière française que ce type de radar n'arrivera pas sur le territoire français. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse de la sécurité routière qui nous disait non, on ne le fera pas.
C'est dingue. On va le faire.
Malheureusement, j'ai bien peur.
Oh, c'est fou, quoi.
Alors que franchement, entre nous, le plus gros danger actuellement, c'est le téléphone portable. On est tous d'accord.
C'est évident.
Et c'est pas le fait d'ailleurs de téléphoner. C'est pas le fait de téléphoner. C'est le fait de... Maintenant, on a l'impression qu'on ne peut plus être... de pas être joignable. Donc, on va regarder s'il y a un mail, un SMS. On va voir cette incitation à le faire, et c'est vrai que ça, c'est vraiment dangereux.
Là où on se trompe, c'est que c'est en fait notre téléphone n'est plus un téléphone. Il faudra même plus l'appeler téléphone. C'est-à-dire qu'on y fait tout. On paye, on réserve nos hôtels, on est sur des applications, on joue, on regarde des vidéos, on fait tout sur notre téléphone, et c'est devenu très accidentogène. Quand je pense qu'aujourd'hui la sécurité routière en France considère que c'est 10% des cas d'accidents mortels, ils se mettent le doigt dans l'œil. Moi, je mettrais bien 1/3 minimum. Le téléphone portable, c'est le fléau de sécurité routière de demain. Ne pas le comprendre, c'est l'incompétence d'aujourd'hui.
Et donc, il faut plus de gendarmes sur la route.
Ça me paraît évident.
La réalité, c'est ça.
Pour traquer les comportements dangereux. Plutôt que des radars anti-freinage de je ne sais pas quoi, qui paraissent totalement délirants.
Ils sont installés en 2022 en Espagne. Ces radars anti-freinage vont peut-être arriver en France. On vous tiendra au courant dans Ça roule. On aura l'occasion d'en reparler en détail. Dans quelques instants, et pour conclure notre Ça roule, avant 19h, l'échange avec Pierre. Vous êtes attendu au 0826 300 300.
Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et vous le savez, pour intervenir dans notre rendez-vous, plusieurs possibilités, soit par téléphone au 0826 300 300, soit par mail. Vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante: je participe@sudradio.fr. vous mettez bien Ça roule dans l'objet, votre question ou tout du moins ce dont vous avez envie de parler, vos coordonnées complètes, que l'on puisse vous rappeler. Et à ce moment-là de l'émission, eh bien, c'est le moment un peu privilégié où vous pouvez venir discuter avec Pierre, d'accord, pas d'accord, pas de souci, on vous accueille. Salut Jean-Paul.
Bonjour tout le monde.
Et comment ça va à Pau?
Eh bien, ça chauffe.
C'est bien. C'est bien, on va pas se plaindre.
Les gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, les agriculteurs, eux, ils craignent.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Les orages ce week-end en plus, hein, c'est compliqué. On vous écoute, Jean-Paul.
Bon, alors, oui, moi j'ai eu 3 ou 4 excès de vitesse de 3 ou 4 km par heure chacun. Alors je me dis que, je fais 70 000 km à peu près par an en voiture, et se faire choper, perdre 4 points pour 4 excès à quelques kilomètres heure, ça fait un peu râler, quoi.
Bon, alors là, je suis content. Je bois du petit lait parce que c'est un sujet qu'on voulait traiter. On va le traiter avec vous. C'est ce qu'a révélé mon association, hein, 40 millions d'automobilistes, et on nous a pas mal entendu là-dessus, mais on a fait que reprendre les statistiques du ministère de l'Intérieur. On s'est rendu compte que plus de la moitié des excès de vitesse constatés en France concernaient des excès entre 1 et 5 km heure. Je veux bien qu'on me dise tout et n'importe quoi, mais celui qui vient m'expliquer qu'on t'a sauvé la vie parce qu'on t'a envoyé un PV pour 1 km heure de trop,
mais en plus, si ça avait été 90 km heure, j'avais rien.
Oui,
Et là, le truc, c'est qu'en fait, maintenant, on a en plus les limitations de vitesse aberrantes du 80 km/h, qui est une funeste connerie. Parce que, alors là, j'en profite.
Non, mais allez-y, parce que c'est une connerie.
On n'a jamais eu autant d'accidents mortels sur les routes qu'en avril 2022. Les chiffres sont tombés. On est au-dessus des chiffres de 2013, Lolo. Ah ouais. Au-dessus. C'est-à-dire qu'en 10 années de sécurité routière, non seulement on n'a pas sauvé les fameuses 450 vies par an qu'on nous promettait avec le 80, mais en plus de ça, on dénombre de plus en plus de morts sur les routes. Qui avait raison à la base ? Encore une fois, c'était dans Ça roule sur Sud Radio que ça se passait. C'était l'association 40 millions d'automobilistes. Donc, ça ne fonctionne pas. On flash des gens. Comme vous, pour 2-3 km/h de trop, alors que vous n'étiez pas dangereux, quelqu'un qui est pris à 82, ça veut dire qu'il roulait un petit peu au-dessus des 82, certes, parce qu'il y a la marge de pondération, une marge technique, c'est pas une marge de tolérance, une marge technique qui est là pour couvrir les défaillances du matériel. Mais en fait, vous n'étiez pas quelqu'un de dangereux et vous avez perdu, alors sur ces routes-là, un point, 68 euros ou 45 si vous payez rapidement.
Et ça, 4 fois pour notre ami Jean-Paul
Donc
Dupont.
Vous avez
quatre
cotisé.
Fois, alors, quand il y a l'élan à 80 km/h, dis-toi merde, alors qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils tapent des SMS
Parce que
tu le vois, les voitures qui sont à 80, elles font des zigzags sur la route. Donc les gars, ils sont sur le portable, ils tapent des SMS, ils ne sont pas concentrés sur la route.
Allez, je rends un hommage.
C'est obligé qu'il y a l'avantage d'accident, c'est obligé.
J'ai fait une rencontre une fois dans ma vie de quelqu'un qui m'a passionné, je l'écoutais, et cette dame, elle s'appelle Colette Fabrigoul. Elle est chercheuse au CNRS, hein, de mémoire du côté de Bordeaux, et elle m'avait appris quelque chose d'assez fabuleux, c'est que le cerveau humain fonctionne à risque constant. C'est-à-dire que quand on prend une mesure de sécurité routière, il faut toujours imaginer l'effet secondaire. C'est-à-dire, typiquement, je baisse la limitation de vitesse, je demande aux gens de rouler moins vite, comment ça va se traduire dans leur comportement? Est-ce que ça va se traduire par une utilisation massive du téléphone? Est-ce que ça va se traduire par une perte d'attention liée à autre chose? Parce que lorsque l'on se sent plus en sécurité, voire plus du tout en danger, on compense le risque. Typiquement, pour bien comprendre ça, c'est que quand tu es dans une zone orage, on ne voit pas à 5 mètres, tu n'as pas idée de taper des SMS. Hein.
Ah non, et puis tu fais super attention, t'es hyper concentré.
Voilà, tu ressens le danger. Et c'est ce qui explique que les accidents surviennent en ligne droite, par temps clair, et que c'est là où on trouve des accidents. Parce qu'en fait, ton cerveau se dit, tout roule, ça va, il n'y a pas de problème. Donc on est moins vigilant aux priorités et à quelqu'un qui pourrait faire une bêtise, on prend son téléphone, on fait des bêtises de ce genre-là. Ne pas oublier ça. Le cerveau humain fonctionne à risque constant. Donc en fait, ce que vous vouliez me dire, pour résumer et pour revenir à nos moutons.
Ah non, à nos PV.
À nos PV.
Eh bien, je vois que si la limitation avait été à 90, je n'aurais rien eu. Ouais. Cette fameuse limitation, alors là aussi, je me précise, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils ont changé les panneaux. Oui. C'était entre 3 et 7 milliards d'euros. Bon, on n'est pas du tout nouveau, mais c'est pas grave.
Non,
de 3 à 7 millions d'euros.
Voilà. Non, c'est peanuts. Voilà. L'argent des radars, c'est 1 milliard 200 millions. Donc des panneaux, si vous voulez, on peut en produire tous les jours pendant 30 ans. C'est pas ça qui fera du mal.
Oui, bon, c'est de l'argent jeté par la fenêtre parce que c'est très efficace.
Qu'est-ce qu'on aimait, l'émission, combien ça coûte, tu te souviens?
Ouais.
Ah, monsieur Pernaud. Ouais. Ouais, c'était trop bien.
Moi, ça me coûte 4 points du jour.
Voilà. Donc grosso modo, alors ce que vous demandez, c'est quoi?
C'est qu'on remette à 90 la vitesse qui est une aberration. Ouais. Et puis que les radars, je sais pas moi, il y aurait 10% de battement, 90 jusqu'à 100, voilà quoi. T'es pas dangereux à 100.
Moi, je vais être plus politiquement correct. Je vais demander par étapes. C'est-à-dire que je me dis que si on avait un gouvernement, une sécurité routière intelligente, au lieu de taper à tour de bras sur les automobilistes, voilà ce que je ferais. Je me dirais que dans un premier temps, on va décider déjà de remettre la limite à 90, puisque le 80, ça ne fonctionne pas. Premier point. Ensuite, je mettrai une amnistie sur les excès de vitesse entre 1 et 5, de manière à faire une phase de test et à regarder le comportement des gens. Si au bout d'un an, l'accidentalité ne réaugmente pas, voire même si ça baisse, ça veut dire qu'en fait les automobilistes n'auraient pas changé leur comportement et au contraire, ça n'aurait pas participé de manière négative à la sécurité routière. Et dans ces cas-là, on peut pousser un petit peu la marge et arriver à la fin sur le modèle anglais, numéro 1 de la sécurité routière en Europe,
et qui amnistie tous les excès de vitesse de moins de, allez, selon les endroits, hein, ça dépend en ville, pas en ville, 12% à D'accord, peu près de la okay. vitesse. Voilà. Voilà, c'est une moyenne hein, entre ce qui se passe sur autoroute et en agglomération. Ouais. L'idée, c'est que si on veut, au lieu de sanctionner et d'appliquer le cadre de la punition collective comme en France, je pense qu'il faudrait faire confiance et tenter de faire confiance aux usagers et tester si ça ne fonctionne pas. On revient en arrière. Mmh. Si ça fonctionne, eh bien, c'est qu'on ne s'est pas trompé.
Eh bien, voilà, Jean-Paul. En tout cas, vous nous avez permis, grâce à votre témoignage, de pouvoir évoquer des sujets hyper intéressants. Puis j'ai appris plein de choses, moi, sur le cerveau humain. Merci ouais. beaucoup, hein, Pierre Chasseret.
Merci, Colette Fabricule.
On vous souhaite une très bonne fin de week-end, Jean-Paul.
Merci beaucoup.
À très vite. Évidemment, Sud Radio continue avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur l'antenne, sur Internet et également sur YouTube, puisque vous retrouvez toutes les émissions qui sont diffusées sur la page Sud Radio de YouTube.
On va l'inviter, Colette Fabrigoul. On va l'appeler, on va l'inviter. Parce que là, on a des choses à apprendre là-dessus sur le comportement au volant. Ça peut être hyper intéressant.
Allez, bonne fin de week-end, Pierrot.
Allez, bonne route à tous et soyez prudents.